Bonjour chacun d'entre vous. Bonjour. On voit quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Je fais un grand, grand plaisir de revoir. Sois la bienvenue. Vous trouverez qui c'est après. Hein. Je suis émerveillé ce matin de voir comment Dieu conduit les choses. Et je vais pas remercier Daniela, mais merci à Dieu de... Des chants qu'il a apportés ce matin. Je crois que si on avait voulu préparer ensemble, on n'aurait pas pu mieux préparer cet ensemble. Et ce chant « Abrite-moi », il m'a vraiment parlé. C'est vraiment une préparation à ce que j'aimerais vous apporter ce matin. J'aimerais vous apporter ce matin le deuxième volet des 5 affirmations des réformateurs du XVIe siècle, qu'il est indispensable de nous rappeler dans un monde qui, on le voit, on le sent de plus en plus, s'éloigne du phénomène religieux, le combat même, ou alors reste dans des extrémismes. Et dans l'Église elle-même, celle de la terre qui se dissout bien souvent elle-même dans ce monde et perd ainsi souvent les bases claires de la théologie et justement ce sel qui doit donner sa saveur à notre monde comme nous le propose le Christ. Alors je vous rappelle ces 5 points qui étaient importants, que les réformateurs avaient posés. C'était sola scriptura, l'écriture seule, solus Christus, le Christ seul ou le Christ seulement, sola gratia, la grâce seulement, sola fide, la foi seule, et sola deo gloria, à la gloire de Dieu seul. Ce matin, je propose d'aborder ce solus Christus, le Christ seul ou le Christ seulement. Cela peut vous paraître évident que dans l'Église, on parle comme pilier de la foi du Christ seul ou du Christ seulement. Les réformateurs ne s'étaient pas trompés du tout. Et ce n'est pas pour rien que, par exemple, le verset préféré d'un prêtre hollandais, vous connaissez bien, vous connaissez des prêtres hollandais, hein, qui s'appelait Menno Simons, qui a été à l'origine des Mennonites. Son verset préféré, c'était le suivant, « Personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. » 1 Corinthiens 3:11. Je fais un peu de pub pour les Mennonites, là. Je fais surtout de la pub pour ce verset. C'était en 1540, ça date un petit peu, hein. 4 siècles et demi plus tard, un colloque réuni à Cambridge, aux USA, 120 pasteurs et théologiens, et ils ont écrit, spécialement à l'attention des églises évangéliques, une déclaration au sujet de cette deuxième formule, « Solus Christus ». Voilà cette déclaration, en une partie en tout cas. « Nous réaffirmons que notre salut est accompli par l'œuvre médiatrice du Christ historique seul. Sa vie sans péché et son œuvre expiatoire seule, suffisent pour notre justification et notre réconciliation avec le Père. Et de rajouter à la fin ce corollaire, pour enfoncer si besoin encore un peu plus le clou, là où souvent justement ça fait mal, il rajoute, là où l'œuvre de Christ comme substitut n'est pas déclarée, et là où la foi en Christ et son œuvre n'est pas sollicitée, nous nions que l'Évangile ait été prêché. C'est dur, mais c'est tellement réaliste et tellement vrai. Les passages de la Bible sont nombreux pour nous montrer et nous enseigner l'unicité et l'œuvre de Christ pleinement et seulement nécessaire et indispensable au salut du pécheur. Et ce matin, je vais vous donner beaucoup de versets. Alors, vous pourrez les retrouver sur le site, les références. Je vais vous donner beaucoup de versets. Je vais vous lire beaucoup de versets. 1 Corinthiens 1:22. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous, dit Paul, nous prêchons le Christ crucifié. Scandale pour les Juifs, folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs. Ou encore, 1 Corinthiens 2, verset 2, « Pour moi, frère, dit Paul aux Corinthiens, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et que Jésus-Christ crucifié. La seule chose qui intéressait Paul, c'était Jésus-Christ crucifié. Il en est de même pour nous. La seule chose qui doit nous intéresser, c'est Jésus-Christ crucifié. Deux versets parmi tant d'autres. Mais nous les hommes, nous et les femmes, quand je dis les hommes, là c'est tout le monde, hein. On dit toujours Ève, oui Ève, non c'est tous les hommes, hein. Mais là c'est tous les hommes, mais c'est les femmes aussi. Nous, combien d'occasions et de formules, de pensées, de dogmes, d'idées, avons-nous mis en place depuis 20 siècles qui, même inconsciemment, dilue cette affirmation pourtant base de notre foi en Jésus-Christ, à tel point que ces idées deviennent souvent à leur tour des doctrines auxquelles finalement nous croyons aussi fermement qu'aux affirmations de la parole de Dieu. Un pasteur, dans un commentaire, a eu cette phrase que je trouve à la fois tellement simple, mais aussi tellement réelle et tellement cruelle. Il dit la chose suivante, si nous représentons, nous, hein, les hommes, si nous représentons le Christ, principalement comme thérapeute divin, guide, ami, héros, source de puissance, réformateur politique, guérisseur ou tout autre titre, à la place de médiateur entre Dieu et les méchants, nous lui enlevons le rôle central de sa personne et nous sapons l'essentiel de sa mission et de son œuvre. Remettre exactement le Christ à sa place, même si on va lui attribuer d'autres choses, mais la principale, c'est le médiateur entre Dieu et cet homme dit « et les méchants ». Et j'aime beaucoup ça, entre Dieu et les méchants, ceux qui ne sont pas à Dieu, médiateur. Alors, qui est réellement le Christ pour nous? Et posons-nous cette question. Dans notre foi, qui est réellement le Christ? Qu'est-ce qu'il nous apporte réellement? Le Christ est à la fois un être unique, il n'y en a qu'un, c'est-à-dire le Fils unique, et incomparable, on ne peut pas le comparer. On ne peut pas se comparer à lui, et on ne peut pas le comparer à quelqu'un d'autre. Le titre Christ correspond au Messie de l'Ancien Testament. Ce mot qui signifie loin. Loin, ce n'est pas L-O-I-N. Hein. Toutes les fois que j'ai employé souvent ce mot ce matin, c'est L-O-I-N-T. Celui qui est loin, qui a reçu l'onction. Mais c'est, oralement, c'est plus difficile que par écrit. Le consacré, donc. Celui qui a reçu une onction spéciale de Dieu pour une mission spéciale, une reconnaissance spéciale. On parle de cette huile. Souvent, qui coule sur la tête d'Aaron, jusque sur le pli de le pan de ses vêtements. Cette huile était quelque chose de tout à fait spécial. C'était en fait un parfum qui coûtait cher. Et curieusement, le livre, je ne sais pas si vous avez déjà lu ça, mais le livre de l'Exode nous explique comment est faite cette huile. Et je crois que c'est intéressant de se rappeler ça aussi. Exode 30, verset 22. Le Seigneur dit à Moïse, trouve des parfums d'excellente qualité. 5 kilos de myrrhe liquide. Vous imaginez, quand on achète une petite topette d'huile essentielle, ce que ça coûte. 5 kilos de myrrhe liquide. 2,5 kilos de cinnamome. 2,5 kilos de cannelle de bonne odeur. 5 kilos de casse. Prends aussi 6 litres d'huile d'olive. Un parfumeur les mélangera. Il en fera l'huile de consécration. Il y a un tas de descriptifs ensuite. Ensuite, tu diras aux Israélites, voici l'huile de consécration. Vous vous en servirez uniquement au service du Seigneur, de génération en génération. Vous avez vu la quantité, il y en avait pour quelques bénédictions. Hein, sur la base de 6 litres d'huile d'olive, plus le reste, je pense qu'il y avait un gros récipient dans le temple. Là. dans le, c'était pas dans le temple, c'était dans le tabernacle. Voilà, excusez-moi, je cherchais, temple portatif. On continue. Personne ne doit s'en servir pour se frotter le corps. Personne ne doit fabriquer un mélange composé de la même façon. En effet, cette huile est réservée aux consécrations. Elle restera sacrée pour vous. Si quelqu'un prépare un mélange comme celui-ci et met sur le corps d'une personne qui n'est pas un prêtre, il faut le chasser de la communauté. Donc on a cette huile qui est consacrée spécialement. Et de cette huile, on a loin de l'Éternel. Celui qui est loin de cette huile. Dans l'Église, dans l'Ancien Testament et dans l'Église primitive, on pratiquait l'onction avec cette huile spéciale, parfois pour la consécration d'un prophète, mais toujours pour celle d'un prêtre ou d'un roi. Donc chaque prêtre, chaque roi était oint avec cette huile. Au travers de cette cérémonie solennelle, Dieu, l'initiateur de cette onction, indiquait son choix souverain et mettait celui qui a été oint à part pour lui, en vue d'une tâche déterminée par lui. Il le plaçait sous sa protection et le chargeait d'accomplir fidèlement son service. Aucun homme n'était autorisé à cumuler ces trois offices, prophète, prêtre et roi. Aucun homme. Mais proclamer Christ seul, solus Christus, c'est proclamer à la fois pourtant le Christ comme prophète, comme sacrificateur et comme roi. Le prophète dans l'histoire, c'est l'agent de la révélation, le porte-parole chargé de transmettre les messages de Dieu à l'homme. C'était l'exemple d'Élie dans la Bible. Nous n'avons pas besoin, nous, d'autres prophètes que le Christ pour révéler la parole et la volonté de Dieu dans le sens des révélations qui constituent la foi et qui ont été transmises une fois pour toutes dans la parole de Dieu. C'est le verset de Jude 3. Le prophète, donc, ce que Jésus a dit dans la Bible est nécessaire et suffisant à notre salut. Nécessaire et suffisant. Pas besoin d'y rajouter autre chose. Proclamer Christ seul comme sacrificateur. Le sacrificateur ou prêtre, c'est le même mot. Quand on dit souverain sacrificateur ou prêtre, c'est exactement le même mot. C'est le médiateur qui représentait le peuple coupable devant Dieu lors du sacrifice, d'où le mot sacrificateur. Nous n'avons pas besoin d'autres prêtres, d'autres sacrificateurs ou d'autres intermédiaires que Christ comme médiateur du salut ou des bénédictions divines. Lui seul est l'intercesseur, le médiateur. L'image de ce médiateur, c'était Aaron. On a cette image d'Aaron avec cette onction d'huile. Jésus est notre seul et unique médiateur envoyé par Dieu pour nous, personnellement. Enfin, comme roi qui seul suffit aux chrétiens. Le roi était celui qui était revêtu d'autorité, chargé de régner sur le peuple et de le guider. C'était le premier exemple de Saül. Nous n'avons pas besoin d'autre roi que Christ. Pas besoin de gourou ou d'autre guide spécial pour contrôler notre pensée ou la pensée des croyants. Non, Jésus seul est le roi du croyant individuel, celui qui règne dans le croyant. Jésus est tout pour nous. L'Ancien Testament annonce l'avènement de celui qui est promis par Dieu, à la fois comme fils et à la fois comme serviteur. Comme fils, psaume 2, verset 7, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » L'affirmation de ce fils envoyé de Dieu. Serviteur, Ésaïe 42, verset 1, « Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. » Fait absolument unique, Jésus-Christ, fils de Dieu, cumule effectivement ces trois fonctions en une seule personne. Aucun homme n'était capable de le faire. C'était le Fils de Dieu. Prophète, et je vais vous donner des versets qui appuient ces points, prophète, Deutéronome 18, un texte très ancien, « Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi, je mettrai mes paroles dans sa bouche, il leur dira ce que je lui commanderai. » Ésaïe, prophétie d'Ésaïe, « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint. » Tiens, on retrouve ce mot « oint. « Pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance. » Comme sacrificateur, et c'est tout le chapitre d'Ésaïe 53, toute l'histoire du Christ qui est reprise dans Ésaïe 53. Et puis comme roi, Jérémie, entre autres, ce sont des versets choisis, il y en a tellement. « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il règnera, donc un germe, quelque chose qui est en préparation, il règnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En son temps, Judas sera sauvé. Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et voici le nom dont on l'appellera l'Éternel, notre justice. » Il y a même quelques textes qui réunissent ensemble, entre eux, les offices de sacrificateur et de roi. Et je prends un texte, Zacharie 6, verset 12. « Voici un homme dont le nom est Germe. Il germera dans son lieu. Il bâtira le temple de l'Éternel. Il bâtira le temple de l'Éternel. Il portera les insignes de la majesté. Il siégera et dominera sur son trône. Il sera sacrificateur sur son trône. Et une parfaite union règnera entre l'un et l'autre. » L'un des participants à ce colloque de Cambridge résumait la formule proposée à l'attention des églises comme ceci. La formule « Solus Christus » signifie que Jésus a tout accompli, de sorte qu'aucun mérite de la part des hommes, aucun mérite des saints, aucune œuvre que nous aurions accomplie, ici ou au purgatoire, ne peut ajouter quoi que ce soit à cette œuvre salvatrice achevée par le Christ. De fait, toute tentative d'ajouter quoi que ce soit à l'œuvre de Jésus est une perversion de l'Évangile et n'est pas l'Évangile du tout. C'est sévère, hein ? Mais je vous le relis. Aucun mérite de la part de l'homme, aucun mérite des saints, aucune œuvre que nous aurions accomplie ici au purgatoire ne peut ajouter quoi que ce soit à l'œuvre salvatrice achevée par le Christ. De fait, toute tentative d'ajouter quoi que ce soit à l'œuvre de Jésus est une perversion de l'Évangile et n'est pas l'Évangile du tout. Ça doit nous interroger dans notre façon de témoigner aussi. Blaise Pascal insistait sur ce Christ, justement, à voir et à garder comme le centre de la Bible. Et j'ai trouvé une phrase que je trouve vraiment sympa entre notre Ancien Testament et notre Nouveau Testament. Et Pascal disait « Le dénouement vient en la personne de Jésus-Christ, que les deux testaments regardent, l'Ancien comme son attente, le Nouveau comme son accomplissement, tous deux comme leur centre. » Et le Christ étant au centre de l'Ancien Testament et le Christ étant au centre du Nouveau Testament. Oint par l'Esprit Saint Jésus-Christ, Fils unique du Dieu unique, incarné, est entré dans notre temps, aujourd'hui, dans notre espace, dans notre Église, dans notre vie, pour y remplir complètement et parfaitement ces trois offices. Pour nous, personnellement, pour notre Église, pour le monde, remplir son office de prophète. Luc 4, 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour rendre libres les opprimés. » Et ça, c'est le message qu'on a à donner à notre monde. avec Simon-Pierre, ce fameux Simon qu'on a tellement décrié, nous pouvons dire que nous croyons qu'il a les paroles de la vie éternelle. Simon lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous ? C'est toi qui as les paroles de la vie. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu, l'envoyé de Dieu. » Le Christ nous révèle ce qu'il a vu chez son Père et nous sommes responsables de la manière dont nous écoutons cela et dont nous le transmettons. Jean 12, 46, « Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles, si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde pas, vous avez déjà lu ça ? Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde pas, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. » Le Christ parle de ce qu'il a vu et entendu de son Père. Les cieux passeront, vous connaissez ce verset, les cieux passeront, les cieux et la terre passeront, mais ses paroles ne passeront pas. Matthieu 24, 35. Remplir aussi son office de souverain sacrificateur. Jésus s'est sacrifié lui-même, s'est offert lui-même volontairement une fois pour toutes en sacrifice parfait à Golgotha pour les péchés du peuple et de chacun des membres du peuple. Hébreux 7, 24, lui, parce qu'il demeure éternellement, possède ce sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Il est vivant aujourd'hui. Est-ce qu'on en est conscient ? Il est vivant aujourd'hui. Il intercède en faveur de tous ceux qui cherchent Dieu ou cherchent à s'approcher de Dieu par lui-même, le Christ. Et il a lui seul le pouvoir de les sauver totalement et parfaitement. Il est capable de compatir à toutes les faiblesses, à toutes nos faiblesses, à toutes nos situations personnelles. Et les baptêmes de dimanche prochain en sont là. Le témoignage des baptêmes en est la preuve même qu'il est capable de tendre la main dans toutes les situations, les plus difficiles soient-elles. Parce qu'il a été tenté aussi comme nous, à tous égards, sans commettre le péché. Dans Hébreux 4, « Ainsi, nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. » Enfin, remplir son office comme roi. Et c'est peut-être quelque chose qui est difficile à palper pour nous. Ce Christ qui est roi. On vit dans une démocratie, une république. Et on a un Christ qui est roi. Peut-être plus facile pour les anglo-saxons, je ne sais pas, cette notion de roi. Pour nous, en France, le dernier, on l'a coupé la tête. Bon, ce n'est pas terrible, hein, mais Christ, on l'a crucifié. Et pourtant, dans la Bible, le mot roi... À Noël, où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Matthieu 2, 2. Où est ce roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile et nous sommes venus pour l'adorer. À la fin, à l'autre bout de la vie du Christ, Marc 15, verset 2, Pilate l'interrogea, es-tu le roi des Juifs ? La notion de roi de nouveau. Jésus lui répondit, tu le dis. L'annonce faite à Marie, avant la naissance, j'aurais pu la mettre avant aussi. Voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom de Jésus, il sera appelé grand et sera appelé fils du Très-Haut et le Seigneur lui donnera le trône de David, son père. Le trône de David. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura pas de fin. C'est un roi éternel. Il n'y a pas d'élection ou de réélection. Il est d'éternité en éternité, roi. Et on a assimilé cela. Jusqu'à l'Apocalypse, Apocalypse 11, verset 15, le septième ange sonna de la trompette et eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ qui régnera au siècle des siècles. Qui régnera au siècle des siècles. Et encore plus loin dans l'Apocalypse, j'avoue que je n'avais jamais noté ce verset, mais il est juste incroyable. Vous savez, dans l'Apocalypse, il y a ces petits cailloux, ces cailloux blancs, pour chacun de nous, hein, où dessus, il y aura écrit un nom que seul Dieu connaît. Donc là, c'est plus que de l'anonymat, hein, c'est de l'anonymat personnalisé, là, pour chacun de nous. Ça veut dire Dieu te connaît, et ce nom-là, c'est ton nom de relation avec Dieu. Et dans Apocalypse 19, verset 16, on parle du même Christ, il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit. Vous savez ce qui est écrit ? Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Je n'ai jamais vu ce verset. Vous voyez des versets qui nous passent comme ça, à travers. Car Dieu l'a souverainement élevé, il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Philippiens 12, 9 à 11. La puissance du nom du Christ, la puissance du Christ, de seulement ce Christ. Accepter cette formule que nous avons vue dernièrement, sola scriptura, l'écriture seule, c'était découvrir que le salut en Jésus-Christ est le message qui traverse l'écriture de la Genèse à l'Apocalypse. C'est donc aussi nous laisser conduire au Christ seul, à ce Christ seulement, ce solus Christus, qui fait et faire de nôtre, faire intimement au-dedans de nous cette phrase que Paul dit aux Corinthiens, qui est un petit peu le message central, « Je n'ai jugé bon de savoir autre chose parmi vous, sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Amen. Je vous invite à un petit moment de silence, et puis si une ou deux personnes veulent prier, qu'ils le fassent tout à fait librement. Seigneur, avec ces quelques points qu'ont relevés les réformateurs, avec ce solus Christus, nous voulons manifester et attester que tu es le prophète que son Père a envoyé sur la terre pour parler aux hommes. Nous voulons attester et proclamer que tu es le sacrificateur qui a donné son corps, sa vie, son âme en sacrifice pour nos péchés et pour nous permettre d'avoir accès auprès du Père. Et nous voulons proclamer que tu es notre roi, celui qui règne dans nos vies, celui qui règne dans son Église. Seigneur, aide-nous à garder ces mots au fond de notre cœur, mais pas simplement à les garder, mais à en parler aux personnes que tu mets sur notre chemin. Nous voulons garder le regard sur toi, Seigneur, et sur toi seul. C'est toi qui as seul les paroles de la vie. Seigneur, merci pour cette possibilité de nous approcher de Dieu, grâce à toi. Nous voulons te bénir et nous voulons t'adorer. Tu es notre Seigneur, tu es notre Sauveur, tu es celui qui nous a apporté cette bonne nouvelle. Gloire à ton nom. Amen. Je vais partager avec vous les annonces, quand j'aurai retrouvé ma feuille d'annonce. Voilà. Avant de parvenir, tu laisses juste une seconde, avant de poser ça, j'aimerais juste qu'on ait peut-être un tout petit moment de prière, spécialement pour Rachel, qui va être opérée demain. Alors je vous invite, si vous voulez, à faire quelques prières courtes pour notre sœur Rachel. Elle n'est pas là ce matin. Jonathan n'est pas là non plus. Il est resté auprès d'elle. On veut vraiment prier pour qu'elle soit gardée, pour que les mains du chirurgien soient guidées. Alors, je vous invite à nous porter ça vers notre Dieu ce matin, ensemble maintenant. Seigneur, ensemble, nous nous associons dans la prière, dans notre intercession vers toi, te demandant de poser ta main sur Rachel pour cette opération. Nous te la remettons, Seigneur. Nous avons confiance dans ce que toi, tu veux faire, Seigneur. Père, nous te mettons tous les détails et nous te prions que tu puisses la garder, que tu puisses lui donner la paix et qu'elle puisse sentir notre amour, notre compassion, notre affection au travers de ses prières. Garde-la, bénis-la, Seigneur. Nous te la remettons en toutes choses et nous avons confiance en toi. Amen. Alors, je reprends les activités. D'abord, je voudrais saluer quelqu'un qui est là pour la première fois. Toute première fois, c'est Aélis qui est là, qui nous rejoint. Enfin, je ne la vois pas, mais elle est dans son petit... Elle dort, voilà. Bienvenue ici. On se réjouit que Dieu la bénisse, la garde, et puis qu'il vous garde dans votre nouvelle vie à trois. Fini le bon temps, là, hein. On est super contents pour vous et on se réjouit. Voilà, Dieu vous bénisse en tout cas. Les activités pour cette semaine. Lundi, conseil d'anciens à 19h30. Mardi, l'étude biblique pour les aînés, 14h30. Jeudi, la chorale, juste, 20h30. De vendredi à samedi, il y a les 24 heures de louange à Duillier. Et le groupe de jeunes y participe. Vous avez là l'horaire où le groupe de jeunes se retrouve pour y aller. Samedi, il y a beaucoup d'activités. Le club d'enfants le matin, le groupe d'ados et le groupe de jeunes le soir. Dimanche, le culte des baptêmes. On se réjouit. On peut encore prier, continuer à prier et se réjouir avec Thérèse, avec Thécla, avec Pierre, avec Sandy, qui seront baptisés dimanche. Dimanche, c'est la grosse fête. Hein. Venez pour faire la fête dimanche, parce que dimanche, c'est la grosse teuf, là, ici. Hein. On y va, on se réjouit, hein, vraiment. Alors, vous pouvez prier cette semaine pour qu'on ait vraiment une journée bénie. On mange ensemble après. Inscrivez-vous. Vous savez qu'on doit s'inscrire parce qu'il y a des problèmes de repas. Vous n'avez pas besoin d'amener le repas, puisqu'il y aura un repas qui sera servi. Par contre, gâteau pour le café, au chocolat pour Emmanuel, vous savez, comme d'habitude. Mais amenez des gâteaux, des sucreries, des choses intéressantes pour le café. Et puis, Dieu voulant, il fera beau. Donc, on restera l'après-midi ici, on participera voilà, on s'organisera tranquillement dans ce temps-là. Donc venez, invitez, c'est l'occasion d'inviter des gens. On aura un message spécialement axé sur le baptême aussi. Donc invitez des gens, c'est une bonne occasion pour inviter des personnes qui n'ont jamais vu ça. Je pense qu'on aura aussi nos architectes qui seront là. Les architectes à qui on a mandaté l'agrandissement de l'église. Parce que un baptistère, pour elles, ça ne veut pas dire grand-chose. Et en tout cas, elles sont intéressées. Et voilà, on espère qu'elles soient priées pour elles aussi, peut-être. On a une super bonne relation avec elles, mais priées pour elles aussi. Voilà, pour les activités de la semaine. J'avance un petit peu et je vous donne encore deux infos importantes. Il y a au fond l'urne dans laquelle vous devez remettre vos bulletins de vote pour le renouvellement du conseil d'anciens. Pensez-y, c'est jusqu'au 30, vous avez encore le temps, mais enfin, les dimanches passent, et si on oublie tous les dimanches, après, c'est trop tard. Pensez-y encore, donc jusqu'au 30, ici. Et puis, je vous rappelle, le mardi 1er avril, c'est pas un poisson d'avril, le mardi 1er avril, on a une assemblée générale extraordinaire, où on aura donc le résultat qui sera public. Et d'autres sujets dont on vous tiendra compte, on vous tiendra au courant ultérieurement. Voilà. Est-ce que j'ai oublié d'autres... Oui, Thibault.
Toujours dans les 24 heures de louange, ça dure 24 heures, donc il y en a aussi le lendemain.
Oui, j'ai dit... Oui, j'ai eu 24 heures, je pensais qu'on avait fait le compte. Oui. De 19h à 19h.
Vous êtes aussi invité, parce qu'Explosion de louange jouera le samedi, de midi à 14h.
Voilà, il y a une affiche au fond là-bas. On l'a déjà annoncé dimanche, mais il y a encore l'affiche au fond, là. Voilà, merci de le rappeler. Voilà, je vous invite à vous lever. Et je vous lirai encore quelques versets. justement que Paul donnait pour les Hébreux, donc pour le peuple. Et il dit la chose suivante à la fin de l'Épître aux Hébreux, et c'est une bénédiction pour nous, mais qui va dans le sens de nous rappeler aussi vraiment ce qu'a fait le Christ, que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus-Christ, vous rende apte à tout ce qui est bien pour faire sa volonté, qu'il fasse en nous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, à qui soit toute la gloire au siècle des siècles. Amen. Que la grâce de Dieu soit avec vous tous. Amen.